Monsieur Lepage, c'est votre opinion, mais c'est plus une question. Est-ce que vous avez une autre question?
Non, mais j'aimerais par contre qu'on avance là-dedans. Parce qu'en tant que Témiscamien, si on ne trouve pas de solution, il n'y a plus d'avancement possible.
On a bien entendu ce que vous aimeriez. Merci beaucoup. Alors, on passe au point 6, suivi des grandes priorités de la MRC. Filière, le projet communautaire Ominiki, projet hydroélectrique, en fait, on avait parlé au mois d'octobre qu'on avait un GAM sur le projet. Il y a eu une grande rencontre le 2 novembre dernier qui a été, je pense qu'on peut parler d'un succès. Il y a eu, le 2 novembre, on s'est réunissait à Kébaoué sur le dossier. Et depuis ce temps-là, on est, il y a des discussions qui sont enclenchées avec MACUH, la communauté, pour qu'ils ils ont proposé leur soutien pour avancer sur le plan des propositions, sur le plan technique. On savait qu'il fallait travailler avec une firme qui a de l'expertise dans la réalisation de ce genre de projet-là. Et la communauté de MACUH a une... Dans la manière dont ils ont travaillé, ils ont le développement tech, qui est la communauté qui ont l'expertise pour ce genre de situation-là. Alors, ils ont proposé l'accompagnement de ce groupe-là, développement tech, et on va être on va travailler avec eux pour continuer notre avancement sur une unité. Peut-être qu'il y a des gens qui étaient là. Est-ce que vous avez des choses que je vous dis de dire? C'était vraiment l'information est sur le site de toute façon, sur notre site de la MRC et de l'UNICI. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Le comité, il y a eu des recommandations qui ont été faites au sortir de cette rencontre-là par les participants. Recommandations qui sont acheminées au comité économique en ce moment pour voir quelles sont les actions qu'on met en place dès le mois de janvier pour les et la suite des choses.
C'est vraiment un exemple des relations nouvelles qu'on a avec les autochtones.
Tout à fait. Tout à fait.
En plus partie avec les autochtones de l'extérieur et à l'intérieur.
Tout à fait. On travaille avec les communautés sur notre territoire et une communauté qui est MACUH. C'était Kiefer Noor, qui est le chef de MACUH, le grand chef, et vraiment inspirant. La manière qu'il explique les. Comment on avance dans ce genre de métier-là, c'est champion. Monsieur Wallet, monsieur Wallet, c'est qui?
Il restait à s'entendre sur la rémunération, la compensation qu'il peut avoir.
Oui, bien sûr, c'est pas. C'est le comité économique.
On va travailler.
C'est ça. Tout à fait. Faut dire que c'est ça, la communauté, le développement PEC. Ils n'offrent pas d'être simplement un consultant. Ils souhaitent un partenariat dans le projet, comme ils le font avec d'autres projets. Alors, ça nous indique. Et les autres projets qu'ils ont réalisés, les trois autres projets qu'ils ont réalisés, c'est des projets qui respectent l'environnement, qui respectent le milieu, qui respectent les activités touristiques. Il faut voir Val-Jalbert pour comprendre à quel point le respect est fort. Et, pour nous, quand ils ont dit on est intéressé à être des partenaires avec vous autres, on a compris qu'on avait un projet qui correspond aux valeurs qu'ils portent. À des valeurs environnementales, à des valeurs de société, puis à des valeurs de développement durable. Alors, on était très contents. Merci, Yves, de me l'avoir rappelé. Ça va pour Niki. On continue donc sur connectivité, téléphonie mobile et Internet haute vitesse. Téléphonie mobile, on a reçu, d'ailleurs vous avez reçu l'information du GIRAC, qui va l'avoir complété pour mars 2021. Donc, il va y avoir une intensification des travaux de manière importante dans l'année 2020. Ça n'arrive pas de façon instantanée, hein, du jour au lendemain, c'est pas tu lèves une switch. Pouf, tu as un réseau, pouf, tu n'en as plus. Alors, on s'aperçoit déjà de l'incidence que ça a, ne serait-ce que sur la route jusqu'à Rouyn-Noranda, Témiscamingue à Rouyn-Noranda. On s'aperçoit qu'il y a de plus en plus, on a accès à de plus en plus d'antennes cellulaires et de meilleure qualité. Maintenant, on sait 2020, ce sera certainement intéressant. Et on a le nouveau président du GIRAP qui est ici autour de la table. Alexandre, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut ajouter là-dessus?
Non.
Non?
Bien, l'intensification de 2020, c'est pour aussi répondre au fait que le décret ministériel qui donne la subvention pour ce projet-là, les travaux doivent se terminer, en fait, les agents doivent être engagés au 31 mars 2021. C'est pour ça que l'échéancier a été revu avec...
plus
serré,
ouais. C'est ça. Non, mais ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'avec le GIRAP, on l'a constaté à la conférence des préfets, on peut le voir ici, avec le GIRAP, ils ont toujours été bien en deçà des échéanciers qui nous avaient soumis. C'est vraiment... on est vraiment chanceux en Haïti, Témiscamingue, d'avoir une organisation comme ça. Et on est vraiment fiers, Alexandre, que tu sois le nouveau président du GIRAP. C'est chez nous. Ça va. Internet haute vitesse, comme je disais, l'appel de projet se termine. Le premier appel se termine, le premier 100 millions se termine le 6 décembre. Après les discussions qu'on a eues avec, entre autres, la MRC Ville de Rouyn-Noranda et la MRC de Bicoutimi-Ouest, on se prépare plutôt pour répondre aux deux prochains appels de projet qui vont sortir dans les prochains mois. Mais on a été bien informés qu'on serait en position de force si on arrivait avec une proposition régionale plutôt qu'une proposition très locale. Alors, on a reçu un message 10 sur 10. Questions? Commentaires? Monsieur Drouin? Nous, l'Internet aux vitesses qu'on a travaillé, c'était tout le temps celui avec les tableaux distributeurs. Celui avec ExploreNet, on s'est renseigné parce que c'est celui-là là, qui est avec les satellites. Puis, mettons que l'expérience est très inégale. La réception, la qualité de réception, puis l'expérience des utilisateurs, c'est très inégal comme service. Alors, nous, on privilégie la voie de câble au distributeur.
Oui, parce qu'on ne parle pas le même service partout.
Non.
Parce qu'avec Antenne, si on veut quand même acheter quand on répond, on peut dire que c'est le corps qui est du plan avec telle unité, on va faire le même service partout.
Bien là, on a eu trois entreprises là, qui nous sollicitaient pour venir nous proposer leur service, Bell, Vidéotron, Cogeco. Là, j'ai vu tantôt rentrer un courriel de Vidéotron, c'est ça. Ils sont très heureux de. Bon, fait que on va voir ce qu'ils auront à proposer, mais nous, comme territoire, on travaille avec deux autres territoires pour arriver à une proposition, une demande de région plutôt qu'une demande très locale pour être en position de force. Je pense que ça peut être avantageux de cette manière-là. Oui?
Par exemple, quand on dit qu'il faut être prêt à des programmes ça, il y en a un en ce moment là qu'on pourrait soumettre en fait dans un programme pour couvrir le dernier kilomètre.
C'est ça.
Qui rembourse jusqu'à 70% mais il faut déposer avant le 6 décembre. Donc c'est souvent les grands joueurs qui sont déjà prêts à déposer ces programmes-là qui peuvent le faire. Donc, c'est nous un peu être partenaire dans ces programmes. Quand ça sort vite, il faut être très soudain.
Ben, celui-là du 6 décembre, on avait eu l'information, en fait, ça devait finir le 18 novembre.
Ouais.
Puis on avait eu une rencontre avec les gens du Conseil du Trésor qui nous disaient que c'est, déjà que ça serait porté au 6 décembre. Puis ils nous ont donné la date du prochain. Fait que c'est là où on travaille. Monsieur Charon?
Est-ce que c'est pour la clôture, c'est pour l'ensemble du territoire?
Nous, on travaille sur le dernier kilomètre, l'ensemble du territoire. T'as une question, Carmen? Non? Tu te croisais les doigts, Carmen? On travaille sur l'ensemble du territoire. C'est, puis les entreprises qui sont venues nous rencontrer, on leur a bien dit. Les rencontres que j'ai eues avec Kim et Daniel Dufault, quand on rencontrait les entreprises, on leur disait le noyau villageois est couvert. Parlez-nous du dernier kilomètre. Nous, c'est ce qui nous intéresse. Puis c'est, de toute façon, le programme, c'est ça qui exige. Il exige que la dernière porte soit déterminée. Alors, on passe planif stratégique. Il n'y a pas Il n'y a pas beaucoup à dire. Vous savez que vous avez accordé pour la planète stratégique, en fait, planète stratégique en tant que telle, ce qui nous intéresse beaucoup dernièrement, c'est la stratégie d'attractivité, de promotion d'attractivité du territoire. On a accordé un budget de près de 45 000 $ pour cet exercice-là. Et aujourd'hui, on avait une rencontre sur le sujet pour accepter les propositions. Donc, on va... La proposition qui a été faite, c'est de mettre de l'avant, de poursuivre le travail qu'on a fait, de mettre de l'avant le territoire. Mais au-delà de ça, au niveau de la planète stratégique, on a convenu, Lynn, moi, et on en conviendra bientôt avec Catherine, qu'on allait proposer au maire vraiment des mécanismes où vous allez pouvoir vous impliquer dans la planification stratégique. Des mécanismes où vous allez voir quels sont les objectifs poursuivis et de quelle façon vous pouvez agir. Et où vous allez pouvoir pas juste recevoir la commande, mais aussi dire de quelle façon vous souhaiteriez avancer là-dedans et quelles seraient vos priorités à vous dans vos villages. Donc, c'est en préparation. Ça va aller au mois de janvier, lors d'une séance de travail où on pourra vraiment vous parler de la planète stratégique. Est-ce qu'il y a des questions? Non, le travail se poursuit au niveau des suivis mensuels sur lesquels Michel et Alexandre sont également. Non, suivi des grandes priorités, service de proximité. À la suite du travail qu'on fait avec la sollicitation, l'entente de coopération, recherche-action coopération, on devrait confirmer notre adhésion à la proposition qui a été mise de l'avant au projet de recherche et pour poursuivre les discussions. Alors, vous avez le projet d'accord coopération et prospective, la version du 17 octobre 2019. Vous avez l'ensemble de l'information et à cet égard-là, c'est ce sur quoi on travaille actuellement et on demande si vous êtes d'accord à ce qu'on signe le projet d'entente de coopération sur la suite des choses qui sont déjà venues ici. C'est une formalité de la signature, mais la suite des choses, c'est qu'ils sont venus. Les chercheurs reviennent au mois de février. Ils voudront rencontrer des personnes du Conseil AMRC et de la communauté tunisienne. Et nous, on va en Europe, on va organiser une délégation qui ira en Europe en septembre prochain pour voir dans des communautés de quelle façon ils ont, par exemple, déployé leur service de proximité, de quelle façon ils ont, par exemple, travaillé sur l'attractivité de la main-d'œuvre ou sur l'accueil de nouvelles populations ou sur l'analyse. Qui appelle les autres la prospective des emplois, sur l'analyse de quelle façon ils vont promouvoir leur territoire sur la base des emplois disponibles et comment ils s'assurent de combler les emplois et leur prospective se fait sur une période de 20 ans. Vous avez les éléments de cette proposition-là. La résolution vous demande si vous acceptez que je signe pour et au nom de la MRC le protocole sur le projet de recherche. Alors, est-ce que vous avez des questions sur le protocole? Vous avez des questions sur... plusieurs d'entre vous avaient d'ailleurs déjà les premiers contacts, n'est-ce pas, M. Dénommé, avec la délégation française. Est-ce que vous êtes prêt à la proposition pour la signature? C'est proposé par Carmen, c'est appuyé par Simon. Suivi d'enjeux ponctuels sur la nouvelle infrastructure aquatique, on a un peu fait le point tout à l'heure. Sur les discussions qui se poursuivent actuellement, il y a particulièrement quatre municipalités qui sont particulièrement actives autour du projet et trois autres qui sont très intéressées. Et on a eu l'occasion d'entendre, vous avez cette situation qui a été... Le rapport qui a été rendu disponible sur la réunion de la Est-ce que vous avez des questions? Monsieur Dumont?
Tout à la rencontre, moi, je pensais que c'était la MRC qui continuait à engager avec le projet pour avancer le dossier, parce que quand même, il y a deux mois, j'ai été à aller chercher un ingénieur pour assister les grilles, pour une question de seigneur, pour une question pour faire la question 4.
En fait, ce qu'on a eu comme information pour le dépôt de la demande, Seigneur pour déposer une demande, pour faire un avis de projet. C'est ça. Ben, il faut que tu manifestes ton intérêt et des informations préliminaires pour faire le dépôt de la demande. Là, on va essayer. Ça ne peut pas être la MRC. La MRC peut accompagner. Il faut qu'on ait un signal clair qu'il y a une municipalité qui va porter le projet. Ou une résolution de 3 ou 4, 5 municipalités qui vont dire nous, on fait un regroupement puis on porte le projet. Vous pouvez la faire à votre municipalité, M. Lourdes. Et ça, ça avait, l'information avait été donnée d'ailleurs aux membres parce qu'il y avait des maires qui étaient là, mais il y avait aussi des conseillers. C'était Sylvie, Mme Poir qui était là pour vous. Pas Sylvie, Linda.
Linda.
Fait que c'est possible de faire comme ça. Vous pouvez le faire. Si vous vous souvenez de la discussion qu'on a eue quand on a parlé de la piscine, les maires ont dit qu'ils n'étaient pas intéressés à ce que la MRC prenne en charge le projet. La MRC anime les discussions. C'est ça. Exactement. OK, Alexandre?
Ça pourrait pas être le volet 3 de VD qui permettrait d'avoir des sommes pour être en mesure de déposer un avis de projet.
Tout à fait, absolument. C'est, l'argent est là, c'est pas un problème d'argent, c'est un problème de qui lève la main. Est-ce que la municipalité de Montréal lève la main?
Non, mais quand je parle de la FDT, du FDT, ça pourrait pas être par simple résolution d'un membre du conseil de la MRC, c'est-à-dire d'utiliser les sommes du volet 3 de FDT pour concevoir et déposer un avis de projet?
Si c'est la MRC qui dépose le projet ou l'avis de projet, OK? C'est la MRC qui le réalise. On n'a pas eu ce mandat-là. Je vous rappelle que vous n'avez pas voulu que la MRC prenne des mandats de cette nature-là. Est-ce que vous voulez revenir sur la décision? Sinon, c'est une municipalité ou un groupe de municipalités qui dépose le projet.
En fait, il faudrait que tous les maires se donnent la compétence.
Et voilà.
Deuxièmement, qu'est-ce qu'ils viennent de là pour présenter un projet? Regroupement municipalité qui présente un projet
avec
dans
les
résolutions, on va pouvoir l'aborder, l'analyser. Mais là, on ne peut pas analyser une phrase.
Non.
Ça prend un dépôt de projet.
C'est ça.
Par contre,
on est souverain ici comme conseil de la MRC. On peut décider qu'on dit qu'une municipalité qui va faire avancer ce projet-là, on va appuyer sa démarche avec un agent de projet.
Là, je parle de politique.
Là, je te parle de politique, tout à fait. Mais jusqu'à présent, là, ramenons-nous dans... C'est pas facile. Mais ramenons-nous dans le cadre dans lequel on travaille comme MRC. Je n'ai pas la compétence pour demander ou pour faire... c'est pas un équipement supralocal, c'est pas un équipement territorial. Est-ce que vous voulez que ça devienne... Je vous invite à y réfléchir. On a une autre réunion en décembre. Hein, c'est juste le 21 mars, c'est le 21 février, la fin des avis de projet, là. La fin du dépôt, le dépôt des projets. Est-ce qu'il y a une municipalité qui veut, qui lève la main? Et si c'est le cas, effectivement, le FDT est là pour accompagner ce genre de projet-là, puisque la MRC, le conseil de la MRC, a compris que c'est un projet territorial.
Pas nécessairement.
C'est sur le volet 3 du GAM qu'on est allé sur l'appui à la stratégie d'attractivité. Hein, ça passe par le GAM. Ah, oui, ça passe par le GAM. Oui, ça passe par le GAM. C'est un autre projet qui va passer par le GAM. Mais oui, puis dans notre, dans l'actuelle politique du GAM, on dit bien que la MRC peut elle-même promouvoir un projet et dans la prochaine mouture, cette même phrase-là, cette même opportunité-là revient.
La première chose qu'on dit, c'est que les sommes d'argent sont attribuées au MRC. Les sommes d'argent du FDT sont attribuées au MRC. Donc, la MRC, lorsqu'elle a un projet, elle doit s'en servir. Au nom de tout le monde.
Tout à fait.
Parce que c'est à nous que la phrase est démontée. Après ça, on peut s'en servir tout le monde. Si on n'a pas de projet, c'est correct. Si la MRC a un projet,
la proposition du GAM sera vraiment la politique qui sera soumise. On met vraiment l'emphase sur des projets que la MRC peut soutenir. Il y a la réponse à la question d'Alexandre, c'est oui, il y a des sommes du FDT qui pourraient appuyer ça.
Si la même sélection à faire, c'est de monter un brevet et de passer par les bons canaux. Parce que politiquement, des fois, ça devient moins bien. C'est plus frustrant quand on commence à faire de la politique avec des brevets. Pour certains, c'est plus frustrant. Passer par les bons canaux, c'est mieux. Ça se vaut mieux.
Les bons canaux.
Ça se travaille mieux.
Message avec un projet super local.
Moi, je t'avoue pas grand-chose, je suis vraiment mêlée.
Supralocal, là, c'est que...
Je suis la seule, là, mais moi, en tout cas, tout ce qui se dit, là, par rapport à une municipalité qui doit prendre ça, pour essayer de l'agent de... Je suis un peu comme M. Drouin, là. Je vais t'avouer que moi, j'étais pas présente à cette rencontre-là. J'ai genre avec
non,
le... c'est ça, moi, j'étais pas, là. Mais...
Non, pas la plus simple. C'est supralocal, c'est que tout le monde, ici, comme tout le monde, chacune des municipalités accepte qu'elle n'a plus le pouvoir, que c'est la MRC qui décide. Et qu'en conséquence, elle facturera à chacune des municipalités, ça va faire partie de la COSPAR, puis que c'est en conseil ici qu'on va décider de comment ça marche. Il n'y a plus une municipalité qui s'appartient, qui n'y a plus. Et ça a été refusé. Ça a été clairement refusé. Maintenant, il y a des municipalités qui ont de l'intérêt à travailler dans une piscine, puis il y a des projets de piscine qui sont sur la table. Il faut pouvoir les déposer par la demande appropriée aux instances appropriées, comme dit Luc, les canaux appropriés. Non, pas vraiment. Bon. Est-ce que ça va pour ça? Sachant que tout le monde est bien mêlé sur le projet de piscine, merci beaucoup. Suivi d'enjeux ponctuels, en fait, c'est notre résolution. Vous vous souvenez qu'au moment de la réunion du 9 novembre, on avait adopté une résolution... le principe de la résolution sur les commissions scolaires, et vous avez la commission scolaire, vous avez la résolution formelle sur notre position comme MRC sur les commissions scolaires, sur le projet de loi 40 et sur les commissions scolaires. C'est celui, c'est exactement le même libellé que celui sur lequel vous aviez accordé un accord de principe. Est-ce que vous êtes prêt à proposer et appuyer cette résolution-là? Carmen le propose, bien sûr. Daniel appuie. Merci beaucoup. Et on a mis dans les enjeux ponctuels pour le 7.3 le dernier compte rendu des discussions et des sujets abordés au moment de la conférence des préfets de Témiscamingue. Vous avez la préfète en bref. La dernière rencontre était le 5 novembre. La prochaine sera le 12 décembre. Je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires sur ce qu'il y avait dedans. Pas de questions, pas de commentaires? Alors, merci. Donc, on passe au point 8, le budget. Là, je suis un peu tannée, je parle de ce temps. J'ai hâte que quelqu'un d'autre prenne la parole. Alors, on passe au point 8, l'adoption du budget. Là, je me suis vraiment préparée. Il y a des copies de budget qui sont disponibles un peu partout, à l'arrière de la salle. Je signale, j'avais des souliers 999 hier, je m'étais pour la première fois hier soir, mais on a dit journée. Alors oui, j'ai des souliers neufs quand même. Vous vous souviendrez pour la bonne école que quand un ministre des Finances au fédéral a un bon budget, il y a toujours des sujets là.
Le ministre des Finances,
c'est une femme, on va les sujets là. Non, mais on a quand même un très bon budget.
On a quand même un très bon garde-robe.
Dans le texte sur le budget, dans le texte que j'ai qui fait la présentation du budget, je vous ai mis en préambule des éléments justement de la loi pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires qui a été adoptée en 2012. Et ça dit clairement que on a droit à avoir de l'ambition pour nos territoires. Et que ça devient important que les gouvernements adaptent mieux les planifications et les actions en fonction des réalités de chacun des territoires. Ça place également les élus municipaux comme des intervenants majeurs du développement des territoires. Alors, je commence la présentation du budget en vous mentionnant que partenariat 2020-2024 pour des municipalités des régions encore plus fortes, ce que nous on appelle le pacte fiscal, a été signé le 30 octobre dernier. Salué par tous, ce pacte fiscal 2020-2024 confirme des moyens concrets et des mesures pour permettre au monde municipal de voir grand pour son monde et d'avoir de l'ambition. On est content, on est très heureux de ce budget municipal qui est devant nous. On est très heureux des sommes que le gouvernement a mis dans nos poches. Ce sont des sommes bienvenues qu'on va utiliser au développement de nos communautés. Il y a plus d'argent, beaucoup plus d'argent, pour la MRC de Témiscamingue, comme pour les municipalités. Mais pour la MRC de Témiscamingue, c'est plus d'1 million de revenus supplémentaires sur lesquels on pourra compter pour les 5 prochaines années. On passe de plus d'1 million à 1 500 000 dès l'année prochaine pour permettre du développement dans nos communautés. Et je tiens d'emblée à saluer et à souligner votre engagement comme élu, votre détermination également pour donner un sens, vie et sens à vos actions. Je vous remercie pour le dévouement que vous avez à l'endroit de vos citoyens et citoyennes et je ne saurais encore trop souligner votre implication pour que Témiscamingue prospère et invitant pour tous. Et je profite de l'occasion pour remercier également Tania Nobu, qui a mis de l'avant le travail des élus dans le reportage sur la rémunération, en faisant parler des élus qui ont bien dit, qui ne comptent pas leur temps et qui ont d'abord une passion pour leur milieu. Merci aussi à vous d'avoir répondu à ces questions. C'est donc un budget. On a un engagement fort de nos élus. On a des sommes, un pacte fiscal intéressant. C'est un budget de 11,3 millions de dollars que nous présentons pour la prochaine année. Pour répondre à nos obligations, pour respecter nos responsabilités et pour également y ajouter une contribution majeure à toutes les initiatives de soutien et développement pour des milieux de qualité et pour appuyer les efforts de développement déjà identifiés, tout comme les projets à venir. On a des moyens renouvelés, mais on est resté très responsable. Comme on l'a été en 2018 et en 2019, on présente un budget responsable. C'est pour nous une obligation absolue pour mieux utiliser les fonds publics qu'on mise à nous et pour respecter nos citoyens et citoyennes sur le territoire. Puisqu'on est très investi là-dedans, la connectivité cellulaire, ça va bien et on va travailler très activement sur Internet aux vitesses. Les sommes du Fonds de développement des territoires peuvent d'ailleurs encore servir de levier, comme elles l'ont fait, au niveau de la connectivité. On contribue également à la planification stratégique, particulièrement à la stratégie d'attractivité des territoires. Et cette contribution-là, elle se manifeste de plusieurs façons. D'abord, par des ressources humaines qui sont dédiées à des actions spécifiques et également à des sommes qu'on continue d'investir pour améliorer la promotion du territoire qui a été faite. On veut aussi mettre de l'avant, à travers la planification stratégique, les développements économiques, les pôles d'excellence en développement économique qui ont été identifiés. Je vous rappelle que la MRC porte les pôles de développement sur les énergies renouvelables, notre projet Aminuki, et sur le développement de modèles agricoles innovants, notamment l'agriculture biologique, qu'on travaille avec les intervenants du milieu. On travaillera également avec ce budget-là à réfléchir et revoir l'organisation des services de proximité. C'est une demande de plusieurs de nos communautés. Il y a un budget de plus de 200 000 $ qui nous vient directement du Fonds de développement région ruralité. Et à même ce fonds-là, on va accompagner les communautés qui le requerront pour proposer, diversifier, augmenter, modifier, structurer des offres de services de proximité. Et oui, ça peut comprendre des demandes de stations de services autonomes. Et oui, ça peut comprendre d'autres types de besoins qui pourront être identifiés. Évidemment, ça peut aussi comprendre, quand on parle de services de proximité, ça peut aussi comprendre des services de loisirs. La question a été posée tout à l'heure. C'est déjà, sans être identifié, réfléchi au niveau du budget, que pour des services de loisirs, notamment le service d'équipement aquatique, on pourra avoir des sommes qui serviront, qui accompagneront les projets qui pourront être présentés. Sans oublier les services gouvernementaux, notamment les services de santé, on reste très attentif à l'offre de services de santé qui est sur notre territoire et on reste très en lien avec les instances qui mettent de l'avant ces services de santé-là. D'ailleurs, la semaine dernière, il y avait une rencontre du comité santé citoyen avec une des dirigeantes du CISAP, une rencontre qui a permis de parler de santé mentale. Et actuellement, on a ouvert la porte à avoir d'autres types de rencontres, particulièrement avec le conseil de la MRC lors de nos séances de travail, avec la responsable du service de santé publique et avec les responsables de santé mentale également, pour avoir une discussion avec les élus locaux, parce que c'est souvent dans nos milieux qu'on reçoit les demandes ou qu'on identifie les besoins pour ces services de santé-là. Bien entendu, le service d'incinérateur, l'infrastructure d'abattage et le projet d'incinérateur pour le traitement de matière résiduelle sont aussi des projets qu'on a dans nos cartons, dans nos horizons. Et on aura prévu la disponibilité de sommes pour pouvoir avancer ces dossiers-là. C'est donc un budget de mi-mandat qui a été préparé avec lucidité, mais avec des moyens financiers sur lesquels le Témiscamingue a rarement pu compter. C'est en consultant les budgets des 8 dernières années, la première fois où on a autant d'argent pour réaliser des projets. Et en parlant de ces moyens-là, il importe de souligner à quel point, jusqu'à maintenant, nous avons dû compter sur la volonté des gouvernements pour obtenir toutes les parcelles de prospérité dont nous disposons. C'est dire à quel point cette prospérité est éminemment fragile, lorsqu'il suffit d'une signature pour nous priver de moyens essentiels à notre développement. Et je n'ai pas besoin de vous rappeler les budgets 2014 et 2015-2018. La leçon de l'histoire récente est bien présente à notre mémoire. Alors, s'il est un enjeu sur lequel nous allons consacrer toutes les énergies et toutes nos capacités, c'est bien sur cet aspect de nous donner des moyens qui nous appartiennent, qui sont prévisibles et récurrents, et qui ne dépendent pas de la magnanimité d'un gouvernement. Nous voulons et travaillerons à y réaliser en unité. Parce que nous souhaitons une réelle prospérité, source non seulement de revenus, mais également de la plus grande fierté. Nous voulons des moyens à la hauteur de nos capacités, des moyens inscrits dans notre environnement et dans notre mode de vie pour un Témiscamingue fort de toutes ses possibilités. Je termine le message, parce que c'est le moment de le faire, en saluant le travail majeur effectué par notre équipe à la MRC. Sans ces personnes actives et dévouées, il ne nous serait sans doute pas possible de répondre aux impératifs qui sont les nôtres. Leur travail nous facilite la tâche, à nous les élus, mais permet de faire avancer notre territoire. Et pour la plupart des citoyens et citoyennes, ils bénéficient de vos services, la plupart du temps sans le savoir. Mais plus encore, je vais souligner le soutien inestimable que m'a apporté et m'apportera encore Daniel Barret, maire de la Verlochère-Anguier, préfet suppléant. L'une des grandes qualités de Daniel, au-delà de son expérience, et de sa très large connaissance des arcanes municipales, c'est qu'il n'est pas toujours d'accord avec moi. Et ça, ça force la réflexion, ça aide les débats, et ça amène toute la sagesse pour les décisions que nous devons prendre. Merci beaucoup, Daniel, pour toute l'aide que tu m'apportes. Puis continue pour être toujours d'accord avec moi. Mais sur un imiki, tu n'as pas le choix. Mes plus grands remerciements, ben je les adresse enfin à une personne unique dont le développement en droit du Témiscamingue n'a d'égal que son professionnalisme, Lynn Giron. Merci mille fois. Lynn Giron, elle me seconde, elle m'appuie avec une efficacité. J'ai écrit une grande efficacité, mais je dirais une efficacité redoutable, que ce soit au quotidien ou dans les grands dossiers. Le travail, pour moi, il est plus facile, mais il reste toujours très agréable. Merci, Lynn, pour ton engagement envers le Témiscamingue et pour ton soutien à mon endroit et pour les compétences que tu partages si bien avec moi, mais avec tout le monde de ton équipe aussi. Merci vraiment. Tous, nous travaillons à consolider la MRC dans son rôle d'instance territoriale et nous mettons tout en œuvre pour prendre des décisions éclairées et pour améliorer nos communautés. On peut désormais le faire avec ambition, puisque pour les prochaines années, nous en avons les moyens et que nous ferons en sorte de conserver à long terme les moyens de ces ambitions. Merci beaucoup. Alors, pour vous rappeler les faits saillants du budget 2020, l'indice des prix, le budget, les dépenses du budget ont été ajustées selon l'indice des prix à la consommation au 1er juillet 2019, soit 2%. Le budget 2019 était de 9 400 000. Il passe cette année à 11 300 000, une augmentation de près de 20%. Il faut rappeler la contribution importante du gouvernement par la mise en place du pacte fiscal 2020-2024. Et cette contribution-là va permettre une bonification de fonds pour que la MRC puisse continuer de fournir les leviers de développement dont on a besoin. Pour les municipalités locales, le budget 2020 de la MRC a pour conséquence que la quote-part nette du fonctionnement de la MRC, les contributions des municipalités, diminue de 9,1%. Alors qu'au niveau de la gestion de matières résiduelles, la quote-part nette augmente de 2,5%, qui se traduit par une diminution globale de 5,5% de la quote-part nette totale, fonctionnement et matières résiduelles. Pour financer les opérations de fonctionnement de la MRC, plus de 88% des revenus sont autonomes, découlant de divers programmes gouvernementaux ou de contributions municipales. En ce qui concerne la gestion des matières résiduelles, les municipalités contribuent à 56% au financement et les revenus autonomes représentent 44%. Pour la répartition des dépenses, 71% sont attribuables au fonctionnement de la MRC avec ses compétences propres. La gestion des matières résiduelles représente, quant à elle, 29% des dépenses. Vous avez également les priorités 2020 de la MRC, telles que soulevées lors de la rencontre de travail, évidemment, développement de la filière hydroélectrique, phase 3 du centre de valorisation, connectivité Internet aux vitesses et vitalisation du milieu et maintien des services de proximité. On demeure très axé sur la planification stratégique du Témiscamingue et très préoccupé de permettre aux Témiscamiens d'avoir accès à une infrastructure aquatique au centre du Témiscamingue. C'est le budget 2020. En cette réunion, je recevrai donc questions, commentaires, sinon une proposition pour l'adoption du budget 2020. Vous avez la résolution dans vos documents. Luc?
La proposition.
Proposée par Luc Lalonde, appuyé de Simon Gélinas. Quelqu'un est contre? Alors, le budget est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Alors, je passe maintenant la parole à Lynn. Avis de motion pour l'adoption du règlement déterminant la répartition des quotes-parts pour le budget 2020.
Bon. Soir, on a adopté le budget. Le mois prochain, on va pouvoir adopter le règlement qui vient déterminer
les
quotes-parts, déterminer les barèmes aussi au niveau de chacun des services. Donc, ça nous prend une motion ce soir. Et on a fait un dépôt du projet de règlement aussi.
Alors, la motion est donnée par Daniel Barret. Merci. On passe donc au Fonds de développement des territoires, proposition d'un projet politique pour l'année 2020, LIN.
C'est un point qui est reporté à la séance du mois de décembre, parce que le comité GAM doit se réunir à nouveau
pour l'analyser la politique.
Ouais.
Cela dit, oui, il fait chaud. Cela dit, les recommandations que vous aviez faites au moment de la réunion sur de la rencontre précédente en octobre et de la réunion sur le budget ont bien été prises en considération par le comité du GAM. Merci. On passe donc au projet de loi 37, loi visant principalement à instaurer un centre d'acquisition gouvernementale et infrastructure technologique du Québec. C'est un projet de loi prévoit que l'ensemble des achats, c'est la loi sur les achats regroupés, prévoit que le gouvernement, pour la majorité des ministères et des organismes, fera des achats regroupés et qu'en conséquence, les institutions, les ministères et organismes qui sont sur les différents territoires ne passeront plus par les entreprises du territoire pour l'achat local. Cette loi-là centralise les dépenses gouvernementales, fragilise les commerces dans les régions, dans les communautés rurales, dans nos milieux de vie. Ce projet de loi-là fait en sorte que quelques-uns auront accès à la prospérité. C'est quand même un levier de développement économique important que les achats gouvernementaux. En conséquence, la conférence des préfets a déjà adopté une résolution à l'effet de contester la loi 37 sur les achats regroupés. Et on écrit au ministre Dubé, le ministre Christian Dubé, qui est le président du Conseil du Trésor, et le ministre Pierre Dufour. Nous vous soumettons un projet de résolution pour faire de même au niveau de la MRC et contester le projet du gouvernement de faire des acquisitions regroupées. Je vous lis la résolution. Considérant que le projet de loi 37 visant principalement à instituer